VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 17 juin 2016. Eric Manirakiza et Morgan Guirier en votre compagnie. Au sommaire ce soir.
Burundi, les trois experts des Nations Unies sur les droits de l'homme ont achevé leur deuxième visite ce vendredi.
Nous avons interpellé les autorités burundaises pour essayer d'ouvrir un peu plus le champ médiatique, ce qui est très important, de manière à améliorer également la confiance entre le gouvernement et les populations.
Sécurité dans le nord-ouest de la Centrafrique, la MINUSCA annonce l'envoi d'une force d'interposition dans la région d'Ongouandaï.
Crash de la 320 d'Égyptaire en Méditerranée, les deux boîtes noires de l'Airbus ont été repêchées.
Conflit en Syrie, une cinquantaine de diplomates américains demandent au président d'ordonner des frappes contre le régime de Bachar al-Assad.
Et bien sûr, plein feu sur la France et l'Euro 2016, juste après le journal.
Burundi, les trois experts des Nations Unies sur les droits de l'homme ont achevé leur deuxième visite ce vendredi. Ils ont rencontré les autorités nationales, les acteurs politiques, des membres de la société civile, des victimes des violations des droits humains ainsi que des organisations humanitaires. Ces experts ont soutenu l'appel au dialogue inclusif qui s'est déroulé à Arusha et à Bruxelles. Le point sur place avec Christophe Murunziza.
Les trois experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont terminé leur deuxième visite au Burundi. Les signes les plus manifestes de conflit ont diminué, certes, mais les experts ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant l'absence de progrès dans la mise en œuvre concrète des réformes des droits humains. Pour le rapporteur spécial de l'Union africaine sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants et les personnes déplacées, Madame Maya Sarli Fadel, les experts sont restés sur leur faim concernant la question médiatique au Burundi.
Sur ce point, il n'y a pas eu une très nette amélioration. Je pense que sur ce plan, nous avons interpellé les autorités burundaises pour essayer d'ouvrir un peu plus le champ médiatique, ce qui est très important, de manière à améliorer également la confiance entre le gouvernement et les populations.
Les experts ont noté également que le nombre de réfugiés, de personnes déplacées a augmenté depuis leur dernière visite de mars dernier. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Sécurité dans le nord-ouest de la Centrafrique. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, annonce l'envoi d'une force d'interposition dans la région de Gaoundaï. L'objectif est de faire tampon entre les groupes d'autodéfense soutenus par les anti-Balaka et les éleveurs transhumants soutenus par les ex-Séléka.
République démocratique du Congo, la justice militaire a confirmé qu'elle comptait juger pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité l'ancien chef de guerre Germain Katanga, déjà condamné par la justice internationale et rejeté sa demande de mise en liberté provisoire.
RDC toujours, l'ex-rébellion congolaise du M23 souhaite un nouveau programme de désarmement, démobilisation et réinsertion pour les miliciens ou anciens combattants des groupes armés. Le président du mouvement, Bertrand Bissimois, réagit ainsi aux heurts survenues mercredi à Kamina à l'occasion d'une manifestation d'ex-rebelles cantonnés dans un camp DDR.
La fièvre jaune se propage en RDC, s'il n'y a pas assez de vaccins, l'OMS recommande de réduire la dose par personne. Idriss Fall.
En République démocratique du Congo, plus de 1000 cas suspects ont été signalés depuis le mois de mars. En Angola, plus de 3000 depuis décembre et au moins 400 décès. Des cas sont aussi signalés en Ouganda et au Kenya. La fièvre jaune est une maladie incurable et le vaccin est le seul moyen pour se prémunir. 18 millions de vaccins ont déjà été distribués dans ces trois pays. Une dose normale de vaccin contre la fièvre jaune peut protéger toute une vie, mais pour une ville comme Kinshasa qui compte plus de 12 millions d'habitants, une vaccination de masse est quasi impossible. Tarek Tazarevic, porte-parole de l'OMS, a déclaré aujourd'hui qu'en cas de pénurie, il est recommandé d'administrer un cinquième de la dose qui permettrait de garantir l'immunité pour au moins une année. Le stock actuel est de quelques 6 millions de doses de vaccins. Il n'y a pas moyen d'accélérer la production. La fabrication du vaccin contre la fièvre jaune prend environ 12 mois. Pour le moment, l'Institut Pasteur, le Brésil, la Russie et Sanofi, usine pharmaceutique française, sont les seuls fabricants au monde.
Et pour finir cette page sur la RDC, sachez que l'Union nationale de la presse congolaise décrète le lundi 20 prochain une journée sans médias sur l'ensemble du pays. C'est pour protester contre la hausse du tarif des données Internet mobile.
Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé jeudi une vidéo datant du mois de mai et apportant une preuve de vie de l'otage suisse Béatrice Stokely, enlevée depuis janvier à Tombouctou.
Une nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. 24 personnes sont mortes hier soir dans une fusillade lors d'une veillée funéraire près de la ville de Goulak.
Nigeria toujours, l'armée annonce avoir arrêté 19 rebelles présumés dans le delta du Niger, théâtre d'une série d'attaques contre les infrastructures pétrolières.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les deux boîtes noires de l'Airbus A320 d'Égyptair ont été repêchées ces dernières 24 heures en Méditerranée, près d'un mois après le crash. Cette découverte devait permettre d'aider les enquêteurs à comprendre les causes du drame. Maïdi Segel.
C'est l'enregistreur de données qui vient d'être repêché aujourd'hui. Il garde en mémoire tous les paramètres de vol. Hier, c'était l'enregistreur de voix qui mémorise les conversations et l'ambiance dans le cockpit qui a été retrouvé à environ 290 km au nord de la côte égyptienne, entre la Crète et l'Égypte, à une profondeur de 3000 mètres. Même si les deux boîtes noires ont été retrouvées en morceaux, les équipes de recherche ont pu récupérer la partie la plus importante de l'enregistreur, celle qui contient la mémoire de l'appareil. Ces deux boîtes, qui sont en réalité d'une couleur orange, vont être transférées au Caire pour être analysées par les Égyptiens, le bureau d'enquête et d'analyse français et le constructeur européen Airbus. Ce crash avait fait 66 morts le 19 mai. Au départ, un attentat terroriste a été envisagé, mais l'absence de revendications et le déclenchement des alarmes avant la chute de l'avion semblent écarter cette hypothèse.
Et une cinquantaine de diplomates américains ont critiqué ouvertement la politique de leur pays en Syrie. Dans une note interne, ils demandent au président d'ordonner des frappes contre le régime de Bachar al-Assad. Le document conforte les détracteurs de la politique étrangère de Barack Obama, n'est-ce pas, Salwa Jafari?
Je pense que c'est un document important et je respecte ce procédé. Et je pense probablement rencontrer ces gens et nous allons avoir une conversation à mon retour aux États-Unis.
John Kerry a donc eu vent de la protestation collective. 50 diplomates, le nombre n'est pas négligeable et la critique sévère. D'après le Wall Street Journal et le New York Times, le télégramme plaide un recours judicieux à des frappes de missiles ou de drones. Il juge par ailleurs évidente et incontestable la logique morale pour mettre fin aux tueries et aux souffrances en Syrie après 5 années d'une terrible guerre. Les diplomates soulignent également le statu quo en Syrie qui continuera de provoquer des situations de plus en plus catastrophiques en matière humanitaire, diplomatique et de terrorisme. Pour rappel, Barack Obama avait dressé une ligne rouge contre l'utilisation des armes chimiques l'été 2013 avant de renoncer peu après à bombarder les installations syriennes.
Le groupe État islamique a tué 15 membres des forces de sécurité lors d'une attaque dans le nord de l'Irak. C'est ce qu'ont indiqué des responsables locaux. L'attaque a débuté la nuit dernière dans la zone de Bir Ahmed, un regroupement de villages ethniquement mixtes situés à l'ouest de la ville de Touz Kourmatou.
Les Palestiniens ont entamé des discussions avec l'Égypte pour déterminer les frontières maritimes de leur État. Les ressources qu'ils pourraient exploiter en mer, a indiqué vendredi l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour.
La Palestine a rejoint cette convention de même que d'autres traités et agences de l'ONU à la suite de son accession en novembre 2012 au statut d'État d'observateur non membre aux Nations Unies.
La chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde vendredi contre la radicalisation du débat en Grande-Bretagne sur une sortie éventuelle de l'Union européenne au lendemain du meurtre de la députée britannique pro-européenne Jo Cox. Selon Merkel, l'exagération et la radicalisation, Morgane, partielle des discours, ne participent pas à la création d'une atmosphère de respect. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
On passe à présent au journal de l'Euro 2016, présenté par Tatiana Mosso. Bonsoir.
Bonsoir. Les matchs du jour ont commencé par le groupe E. L'Italie affrontait la Suède à Toulouse, où la squadra s'est imposée 1-0. C'est le deuxième pays à gagner son ticket pour les huitièmes de finale après la France. On fait le point avec Nicolas Pineau.
Oui, c'était un match fermé, un match sans grand relief, mais l'Italie est parvenue à s'imposer contre la Suède 1-0 en toute fin de match. C'est Eder qui a libéré les siens à la 88e minute de jeu. Avec 6 points, les Italiens sont donc mathématiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. En revanche, les Suédois de Zlatan Ibrahimovic devront impérativement s'imposer lors du troisième match contre la Belgique. On est quand même resté sur sa fin aujourd'hui à Toulouse pour voir ce spectacle. Italiens et Suédois ont livré un match bien décevant dans ce groupe E. En tout cas, encore une fois, l'Italie a fait parler l'efficacité. L'Italie qu'on annonçait moribonde avant le début de cet Euro prouve qu'encore une fois, c'est une grande nation du football. Nicolas Pineau depuis la France pour VOA Afrique.
Autre affiche du jour, celle opposant à Saint-Etienne la Croatie qui menait 1-0 face à la République tchèque et à Nice, l'Espagne contre la Turquie dans le groupe D. Un point sur les matchs du groupe F. Surpris et tenu en échec par l'Islande lors de son entrée en compétition, le Portugal doit rebondir pour réellement entamer son tournoi. Et pour aller le plus loin possible, toute une nation compte sur Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid, qui doit marquer face à l'Autriche pour le deuxième match des Portugais qui aura lieu samedi. Christian Panzou nous présente la rencontre.
Très observé, même épié par les médias du monde entier, Cristiano Ronaldo n'a pas spécialement brillé lors de l'entrée en lice du Portugal. Pas de but face à l'Islande, mais plutôt un rôle de distributeur de ballons qui n'enchante pas beaucoup les supporters portugais, qui préfèrent admirer un Cristiano buteur. Ronaldo est attendu, trop peut-être, au vu de la saison qu'il vient d'achever avec son club. 48 matchs sous le maillot du Real Madrid, quelques blessures et un parcours épuisant en Ligue des Champions. C'était déjà le cas il y a 2 ans pour le Mondial au Brésil. Ronaldo avait abordé la compétition totalement éreinté par la saison écoulée et sa sélection s'était arrêtée dès la phase de groupe. Orgueilleux, CR7 tient tout de même à montrer qu'il est peut-être une des stars de cet Euro et aura l'occasion de faire parler tout son talent contre l'Autriche à Paris, dans le Parc des Princes. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
On refait le match avec l'Espagne dans le groupe D. Une petite analyse de la Roja, c'est le coup de sifflet de Jules Valentingue.
Bonsoir. Après sa victoire à l'arraché dans le Money Time face à la République tchèque, l'Espagne doit à son public une prestation plus achevée contre une formation turque aux abois. Avec une arrière-garde qui a conservé toute sa technicité, la sélection hispanique produit toujours du jeu, sait conserver le ballon et se montrer patiente. Mais le manque de réalisme de son secteur offensif, criard lors de sa rencontre face à la République tchèque, est peut-être son talon d'Achille. Les buteurs en série de l'attaque, les Fernando Torres, Villa ou autres Soldado, ont récemment pris une pré-retraite méritée. Et à l'heure où les équipes espagnoles règnent dans les compétitions de clubs en Europe, seuls des joueurs recrutés à l'étranger expliquent ses performances. La Roja, elle, ne saurait compter sur des Messi, Neymar, Ronaldo ou Griezmann. Certes, la politique exemplaire de formation de ce grand pays de football produit encore un nombre d'excellents attaquants, mais ceux-ci ne sont plus des hommes providentiels, des tueurs de match, à l'exemple des ex-madrilènes, Butragueño ou Raoul. Contre une équipe de Turquie qui ne leur laissera aucun répit, les champions en titre devront convaincre leurs nombreux admirateurs et prouver qu'ils peuvent encore prolonger l'épopée fantastique commencée en 2008, ou au pire, atteindre la cime et tomber les armes à la main. À demain.
Merci beaucoup, Jules.
Merci, c'était donc le journal de l'Euro. Et avec vous, Tatiana, toujours en bref, la Copa América.
Oui, pour la deuxième fois dans leur histoire, les États-Unis ont atteint le dernier carré de la compétition en battant l'Équateur 2-1 en quart de finale de l'édition 2016. C'était jeudi à Seattle.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
Au Burkina Faso, une centrale solaire d'une capacité de 33 MW a été lancée hier par les autorités burkinabées. Située à Zaktouli, la construction de cette centrale, qui est considérée comme étant la plus grande centrale solaire du Sahel, coûtera au moins 47 millions d'euros et nécessitera plus de 129 000 panneaux solaires. La fin des travaux est prévue dans 2 ans. La compagnie aérienne française Corsair a repris officiellement jeudi 16 juin la ligne Paris-Abidjan après l'avoir suspendue en octobre 2015. Corsair entend bousculer ses concurrents et regagner des parts de marché. Le vol Corsair en provenance de Paris s'est posé hier soir à Abidjan avec à son bord 230 passagers sur les 250 possibles. Le Cameroun va investir 9 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de transformation de cacao à Kekem, dans la région de l'Ouest. Louis Paul Motazé, le ministre de l'Économie, a conduit hier une délégation gouvernementale dans cette localité. Le Cameroun a produit près de 210 000 tonnes de fèves de cacao pour la saison 2013-2014, mais n'a transformé que 32 700.
Morgane Guériec et Eric Manilakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale au Gabon.
Ça sera tout à l'heure, juste après l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec John Lyndon.
Oui, l'actualité économique, c'était tout à l'heure. Morgane, on passe directement au Gabon où un ancien Premier ministre, Dali Bongo, se présente à l'élection présidentielle de cette année. Raymond Dong Sima était à la tête de l'équipe gouvernementale du président Ali Bongo de février 2012 à janvier 2014. Il était au micro de Idriss Fall.
Oui, je me suis déclaré candidat à l'élection présidentielle depuis le 19 mars dernier.
Vous devenez un opposant?
Oui, bien sûr, je suis un opposant à la personne actuelle qui gère le pays.
Mais vous l'avez servi comme Premier ministre quand
même. En effet, j'ai été Premier ministre de février 2012 à janvier 2014.
Et pourquoi vous êtes parti?
Le président a utilisé une prérogative constitutionnelle qu'il avait le droit d'utiliser. Il a changé le Premier ministre.
Et peu de temps après, vous avez claqué la porte du PDG?
Pas tout de suite. Je suis parti du PDG le 30 juin 2015, c'est-à-dire un an et 5 mois plus tard.
Et pourquoi?
Parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se faisait et ces désaccords étaient déjà apparus alors que j'étais Premier ministre.
Et vous aviez dit que le PDG, il n'y a pas de démocratie à l'intérieur?
Exactement, j'ai dit qu'il n'y avait pas de démocratie, qu'on ne parvenait pas à faire des réformes de l'intérieur du parti.
Mais quel type de réformes?
Le parti n'accepte pas, de mon point de vue, les critiques qui portent sur la façon dont la chose publique est conduite. Donc, il n'est pas possible dans ces conditions d'engager un changement d'orientation dans la façon de gérer le pays.
Pourtant, le monsieur que vous avez servi, Ali Bongo, il est arrivé au pouvoir après des primaires à l'intérieur du parti, non?
Je n'étais pas encore membre du Parti démocratique gabonais au moment où tout cela s'est fait. En fait, je suis entré au parti en mai 2011, à 5-6 mois des élections législatives qui avaient lieu à la fin du mois de novembre, début décembre 2011.
Maintenant, vous êtes candidat. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau que vous n'aviez pas fait avec Ali Bongo?
La principale difficulté du pays à l'heure actuelle, c'est que les objectifs de gouvernance ne sont pas clairement établis et ne sont pas du tout la préoccupation principale. Nous avons une gouvernance qui est défectueuse. Oui. Donc, il faut remettre le pays sur les rails de la bonne gouvernance.
Mais on a l'impression que c'est une candidature de plus. Vous êtes tellement nombreux, les opposants contre Ali Bongo.
Ce n'est pas une candidature de plus. Je rappelle qu'après M. Jinping et M. Milama, j'étais la troisième personne qui s'est déclarée candidat. Donc tous les autres dont vous êtes en train de parler se sont déclarés bien après moi. Et c'est normal.
C'était donc l'ancien Premier ministre gabonais Raymond Dong Sima au micro de Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Cameroun, la grippe aviaire H5N1 qui touche 3 régions du pays. De nombreux élevages sont en péril, ce qui a des conséquences négatives sur la filière avicole, grosse exportatrice vers l'Afrique centrale. John Lindon a contacté Bernard Djonga, président d'honneur de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, principale organisation paysanne du pays.
Celui-ci, on favorise la propagation de la maladie dans toutes les régions. La maladie va y arriver. Quand je vois l'attitude du gouvernement, je pense qu'il y a un peu d'irresponsabilité dedans. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est qu'on ne mobilise pas suffisamment de moyens pour prendre un ensemble de dispositions qui non seulement empêchent la propagation de la maladie, mais aussi sauvegarde la filière agricole. Parce que voyez-vous, on joue sur plusieurs tableaux, sur le tableau économique, on joue sur le tableau social, sur le tableau sanitaire, on joue aussi sur le tableau environnemental.
À ce niveau justement, les éleveurs sont évidemment les plus touchés. Est-ce qu'il y a un moyen de compensation en ce moment?
Il n'y a absolument pas de disposition qui soit prise pour qu'on puisse envisager un quelconque dédommagement. Et c'est ça qui est douloureux.
Est-ce que ce qui se passe au Cameroun a des répercussions sur les autres pays de la région?
Mais bien évidemment, parce que voyez-vous, le plus grand bassin agricole du Cameroun, l'Ouest Cameroun, c'est 80% de la filière agricole nationale et c'est 60% de la filière agricole sous-régionale. Or, on a identifié deux foyers dans ce bassin et aujourd'hui, les deux bassins sont complètement fermés vis-à-vis de l'extérieur. Vous voyez qu'il y a forcément une incidence non seulement sur les agriculteurs, mais aussi sur les pays voisins.
Alors, que fait la société civile à laquelle vous appartenez?
Alors, nous travaillons sur plusieurs plans. Bon, déjà, le premier plan, c'est de mettre le paquet sur le gouvernement pour qu'on se rassure de la manière avec laquelle le virus est arrivé au Cameroun. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on se pose des questions sur l'origine de ce virus au Cameroun. Ça, c'est de mettre la pression sur les pouvoirs publics qu'ils puissent envisager une indemnisation des producteurs. Troisième plan, mettre la pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils ne puissent pas envisager la réimportation des coupes de poulet congelées au cas où il y avait pénurie du poulet au Cameroun à l'heure actuelle. Évidemment, nous participons aussi à l'éducation des consommateurs.
Alors, est-ce qu'on peut toujours consommer du poulet au Cameroun en ce moment?
Oui, bien évidemment, on peut consommer du poulet si on prend un minimum de dispositions. Premièrement, il ne faut pas que ce soit un poulet qui est mort, dont la mort n'est pas connue. Un poulet mort, il faut l'exclure. Deuxièmement, quand on a un poulet vivant, qu'on tue et qu'on veut le consommer, il faut se rassurer qu'on l'a très bien cuit. Je pense que ce soit les œufs, que ce soit le poulet bien cuit, on peut le consommer sans problème. Malheureusement, c'est un message qui est difficile à faire passer des consommateurs puisque la psychose gagne du terrain.
Voilà, c'était Bernard Djonga, président du CRAC, président d'honneur de ACDIC au Cameroun.
Nous restons au Cameroun, Morgane, où plus de 200 kg d'ivoire ont été saisis et 45 trafiquants arrêtés dans le sud du pays. L'ivoire venait du Gabon et avait pour destination, via l'océan Atlantique, le Nigeria. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Selon George Moncharu, délégué régional de la forêt et de la faune du Sud Cameroun, les 45 trafiquants proviennent de 6 pays d'Afrique et ils sont soupçonnés d'être membres d'un réseau de trafiquants présents au Cameroun, Gabon et Nigeria.
Un bateau en provenance de Libreville et qui allait au Nigeria, qui avait des problèmes d'approvisionnement en carburant, a dû accoster au niveau de Bodje pour essayer de se ravitailler. Lorsqu'ils se sont accostés, le bataillon de fusiliers marins a dû procéder au contrôle immédiatement et a constaté qu'ils se retrouvaient avec des clandestins. Les Nigériens en grand nombre, les Gambiens, les Nigériens, les Béninois, il y avait trois caisses qui contenaient des pointes d'ivoire. Avant, nous savions que ça se passait par les routes, mais là, avec cette saisie, on constate qu'il y a un nouveau réseau de trafic qui se passe par la mer.
Les ONG comme Trafic, qui s'occupent de la protection des espèces animales sauvages en voie de disparition, annoncent un fort retour de trafiquants d'ivoire en Afrique centrale à cause de la montée des prix dans les pays asiatiques. Quand Abesolo François, chargé des programmes de ces ONG en Afrique centrale.
Les revenus moyens de l'Asiatique, notamment Chine, Thaïlande et autres, est assez élevé. Il s'est développé en eux le souci d'acquérir des biens de luxe, parmi lesquels l'ivoire en provenance de l'Afrique. Et le prix monte donc jusqu'à atteindre parfois les 3 000 $ le kilo. Et ce qui fait que la demande est très forte là-bas et elle se répercute jusqu'à toucher l'Afrique centrale, qui est l'une des principales sources de ravitaillement.
Pan Abesolo précise que les trafiquants d'ivoire développent les nombreuses tactiques pour échapper au contrôle policier et militaire dans les pays centrafricains.
Ils utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour tromper la vigilance des services de contrôle. Ils découpent parfois les ivoires et mettent dans des fûts d'huile, ce qui est souvent difficile à détecter au niveau des scanners, là où il y en a. Parfois, ils pulvérisent les ivoires et ils transportent cette poudre pour aller les remouler à l'arrivée. Il y a aussi des façons où on enferme l'ivoire dans un objet d'art. Parfois, on enroule des tapis. Vous allez dire que c'est du mobilier alors qu'il y a des ivoires à l'intérieur.
En avril dernier, le Cameroun a détruit plus de 2000 ivoires saisies dans son territoire en 2 ans. Les ONG annoncent déjà la disparition de plus de 60% des éléphants en Centrafrique depuis 20 ans. Et si des mesures ne sont pas mises à disposition, ces espèces dites entièrement protégées seront en voie de disparition. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La Haute Cour de justice de Londres a condamné le cabinet Legdai à dédommager près de 5000 victimes des déchets toxiques du Probo Koala en Côte d'Ivoire. Depuis 2006, il y a eu 30 décès et des milliers de personnes intoxiquées. 25 000 victimes n'ont toujours pas été indemnisées. Nathalie Barge a joint Charles Anand Kofi, président du Réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire.
C'est une bonne chose que de voir condamner le cabinet Legdai. Le cabinet Legdai ne devait pas donner notre argent à une tierce personne en vue de notre indemnisation. Nous-mêmes, nous avons une procédure judiciaire au civil ici contre Legdai au terme de laquelle nous avons engagé sa responsabilité contractuelle. Il s'agit des 25 000 victimes sur les 29 624 concernées par sa procédure qui n'ont pas encore reçu leur indemnisation à ce jour. Il s'agit d'un certain Kalulu Fadiga qui est venu me voir, à qui j'ai donné une assignation à l'effet d'attraire le cabinet Legdai devant les juridictions britanniques afin de se voir condamné à réparer le préjudice qu'il nous a causé, à savoir le fait de retenir notre indemnisation. Et le cabinet Kalulu Fadiga est passé outre cette consigne pour recenser des victimes ici, en contrepartie, n'est-ce pas, donc de certaines des banques, et a pris sur lui la responsabilité personnelle d'initier cette procédure là-bas, dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Mais nous avons une procédure ici intégrale, qui est antérieure à celle de Kalulu Fadiga, qui a été initiée depuis 2010 contre le cabinet Legdai. Et nous avons également une autre procédure pénale, qui est en instruction devant la cour d'appel, et donc les plaidoiries vont se passer le 29 juin prochain. Si la décision nous est favorable, surtout que déjà, au tribunal de première instance, tous les prévenus ont été condamnés à 20 ans de prison, mais curieusement, sans mandat de dépôt.
Alors là, vous parlez de Claude Gourou et de Cheikh Oumar. Ils ont été condamnés pour avoir détourné de l'argent qui était destiné aux victimes, c'est cela?
Tout à fait, pour avoir détourné une partie de l'argent donné par le cabinet Legdai à ces individus que nous ne connaissons pas. Au moment du partage, une tierce personne, n'est-ce pas, a fait intrusion dans la procédure pour s'arroger une qualité qui n'était pas sienne, à savoir quel était notre mandataire. Et à la suite, n'est-ce pas, donc d'accord compromettant, le cabinet Legdai a donné notre argent à cette structure et une grande partie a été détournée. Nous avons porté plainte originairement sur la somme de 18 750 millions destinée à l'indemnisation des 25 000 victimes.
Alors, le Renat Videt CI conteste notamment l'accord à l'amiable qui avait été conclu donc, entre l'État ivoirien et Trafigura en 2007, c'est ça?
Tout à fait. Nous disons que cet accord est un deal entre l'État de Côte d'Ivoire et Trafigura. De plus, l'accord a été passé sans le consentement des victimes et à leur insu. C'est un accord qui ne nous est pas opposable. Lorsque nous allons recouvrir les indemnités qui ont été détenues par des individus sans poids ni loi, nous allons engager une nouvelle action contre la société Trafigura à l'effet d'une indemnité compensatoire qui sera proportionnée au préjudice subi par les victimes.
Voilà, c'était Charles Anand Kofi, président du Renad Videsi, joint à Abidjan.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gahima, à la console Nick Ivanov. Présentation Morgane Guiriec et Eric Manirakit.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.